Je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, et nous lirons les versets 36 à 50. Le sujet de notre étude ce matin, c'est comment augmenter notre amour pour Dieu. Vous savez, le mot amour, c'est un mot qu'on emploie énormément. Mais vous savez que dans l'usage commun, c'est quelque chose, l'amour, c'est quelque chose que je ressens. Je ressens d'amour pour celui-là, mais je ne ressens rien pour l'autre. Et peut-être pendant un temps, j'ai ressenti quelque chose pour celle-là, mais maintenant, je ne ressens plus rien pour celle-là. Et c'est le langage courant qui nous parle de cet amour. Comme si je n'ai pas de contrôle sur l'amour que j'exerce. Ou je l'ai, ou ça sort, ou ça ne sort pas. Tandis que quand vous lisez la Bible, eh bien, c'est un amour volontaire. Il nous dit « aimer », comme si c'est moi qui décide. Je décide d'aimer. Et je décide de ne pas aimer. Et c'est comme ça que Dieu le conçoit. On dit « c'est bizarre ça ». Écoutez, ce n'est pas bizarre, parce que si Dieu avait attendu d'avoir des sentiments agréables vis-à-vis de nous, on ne serait encore pas aimé. Mais c'est parce que Dieu est amour, et il a décidé de nous aimer, il dit « je vais les aimer et je vais faire ce qu'il faut pour exprimer cet amour », et bien que nous avons accès à cela. Donc heureusement que l'amour de Dieu est un amour volontaire. Et donc, puisque lui a cet amour-là, et bien, il demande à que cela paraisse chez nous. C'est pour ça que c'est un fruit de l'esprit. Alors si vous êtes encore au stade où moi je sens pas, ben vous avez l'amour un peu humain, voilà. Mais quand vous arrivez à aimer celui qui ne devrait pas être aimé, alors là vous savez que c'est Dieu qui commence à agir. Quand vous arrivez à aimer quelqu'un malgré, eh bien alors là c'est que l'amour de Dieu qui peut faire cela. Et donc ce matin, nous allons voir comment augmenter notre amour. Et alors, dans ce passage, eh bien, nous allons justement, il nous fait référence à l'amour de cette femme pour Jésus, et donc nous voulons étudier. Donc, Luc chapitre 7, et je commence à lire au verset 36. Vous allez remarquer dans la lecture qu'il y a trois personnes. Il y a Simon le pharisien, mais vous savez ce que sont les pharisiens, c'est des gens justes, religieux, c'est les orthodoxes de l'époque. Et puis après, il y a cette femme pécheresse, donc il y a homme, femme, il y a pharisien, pécheresse, il y a le contraste, et puis entre les deux, il y a Jésus. Et maintenant, lisons. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Juste, je vous rappelle que pourquoi comme ça, c'est parce qu'à l'époque, quand on se mettait à table, ce n'était pas des chaises comme nous, et on pose les pieds sous la table, mais c'était des tables basses, et puis après des banquettes. Et on s'allongeait sur un coude, et puis on se servait avec l'autre main à table. Donc les pieds sont vers l'extérieur. On est en éventail, les pieds sont vers l'extérieur. Donc c'est pour nous aider à comprendre comment ça se passe. Je continue à lire verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, verset 38. Mais elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était pécheur et prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » On ne pourrait pas rassembler dans la même maison des personnes plus opposées. Le pharisien, Simon, et puis cette femme pécheresse. Mais vous savez, première chose extraordinaire, c'est que Jésus, lui, il peut parler à l'un et à l'autre. C'est déjà rien que cette pensée, ça nous rassure, n'est-ce pas ? Chacun, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit la réputation qu'il peut avoir dans la communauté, chacun a sa place devant le Seigneur et peut accéder au Seigneur. Une différence, c'est que Simon se trouve juste. Lui, moi, je suis quelqu'un de bien. Tandis que, mais, lorsqu'on arrive à la fin du récit, eh bien, on trouve que ce n'est pas une question de qui est juste, c'est question de cette femme qui part justifiée. Et finalement, elle part avec beaucoup plus que lui. Premièrement, je vois dans ce passage une section où personne ne parle, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de pensées de chez la femme et aussi chez Simon, le pharisien. Il y a un moment là où il y a beaucoup, mais rien ne se dit. Vous avez regardé la femme, au verset 38. Elle a su que Jésus était dans cette maison, et elle vient, apparemment elle n'a pas été invitée, elle s'invite, elle rentre. Alors peut-être qu'ils mangeaient dans la cour, et la cour est ouverte à tout le monde peut passer, entrer, sortir, donc, parce que personne ne la chasse. Mais regarde verset 38, elle se tient derrière au pied de Jésus. Bon, comme je vous disais qu'il était allongé, la première partie qui se présente à elle lorsqu'elle s'approche de Jésus, ben, ce sont les pieds. Et pour elle, ça suffit largement. Elle se place, son premier réflexe, lorsqu'elle apprend que Jésus est dans la ville, est dans une maison, eh bien, c'est d'aller, et vous savez ce qu'elle fait ? Elle va pour l'adorer. Il y a quelque chose, il y a un désir en elle. Et là où est Jésus, elle veut aller l'adorer. Quand il y a une œuvre dans le cœur, eh bien, il y a le désir de lui dire ce qu'on ressent dans le cœur. Et elle ne part pas avec les mains vides. Elle part avec un vase d'albâtre plein de parfums. Dans Deutéronome, chapitre 16, verset 16, Paul dira, tu ne te présenteras pas les mains vides devant l'Éternel ton Dieu. Et même le plus pauvre en Israël, même s'il venait avec deux pigeons ou deux oiseaux, mais il venait avec quelque chose. Et donc, si nous voulons adorer le Seigneur, il y a déjà le désir, mais après, il y a aussi ce qu'on apporte. Cette femme ne se laisse pas gêner par l'œil critique du pharisien. Parce que vous pouvez imaginer, quand tu es allé rentrer, lui, il regarde comme ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a pensé dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Elle va nous gâcher le repas. Mais elle ne s'occupe pas de ce que lui pense d'elle. Ce qu'elle a, c'est qu'elle a quelque chose à dire, à montrer à son Seigneur. Et c'est ainsi aussi, dans ce sens-là, elle est un modèle pour nous. Elle est venue vers Jésus avec du parfum. Normalement, ça se verse sur la tête. Mais bon, elle n'avait pas accès à la tête, donc elle avait l'intention de le verser sur ses pieds. Mais apparemment, rien qu'en arrivant là, près de Jésus, avant même de briser le seau sur son vase d'albâtre, eh bien, elle est prise par les émotions et il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et les larmes commencent à couler et tombent sur les pieds de Jésus. Alors, bon, peut-être qu'elle est gênée là et elle défait ses cheveux et puis elle essuie les pieds de Jésus. Et ensuite, elle embrasse ses pieds parce que ce sont ses pieds. Et elle les oint de parfum. Et bien sûr, dès qu'on verse le parfum, ben après, le parfum il se dissipe et il remplit la pièce, il remplit l'endroit. Tout le monde s'en rend compte, vous savez. Quand on adore vraiment le Seigneur, on n'a pas besoin de faire du bruit. Ça se ressent, ça s'entend. Il y en a qui aiment faire beaucoup de bruit pour qu'on ait l'impression qu'ils ont vraiment adoré le Seigneur. Mais la vraie adoration, elle se fait dans le silence, parce qu'elle se fait à partir du cœur. Et l'adoration, c'est pas ce qu'on peut dire. C'est d'abord le don de soi. Et ensuite, c'est ce qu'on a à offrir. Les paroles, c'est gratuit. Il y a beaucoup de gens qui aiment adorer le Seigneur avec les paroles. Mais c'est gratuit, ça ne coûte pas cher. On se réserve une heure et puis on dit que des belles choses sur Dieu. Mais lui dit, non, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, mais toi, c'est toi que je veux. C'est toi que j'ai racheté. Quand je suis mort sur la croix, ce n'est pas pour que tu me dises des belles choses, c'est pour que tu viennes toi-même à moi. Je t'ai racheté. C'est d'abord l'adoration, c'est un don de soi-même. Et puis ensuite, c'est ce que je peux lui apporter comme service. Et là, cette femme, elle vient, ne se laisse pas par ce que pensent les autres, elle n'est pas distraite, elle va directement vers son Sauveur et elle lui exprime ce qu'elle a au fond de son cœur. Et par son geste, et il est tellement spontané, et on se dit, mais elle ressent quelque chose de fort en elle. Et Jésus, par la suite, il appellera ce qu'elle ressent de l'amour. Alors qu'elle, elle est en train d'adorer son Seigneur et en train de lui exprimer l'amour qu'elle a pour lui, alors que rien ne se dit, Simon est en train de penser des choses dans sa tête. Simon, le pharisien, il voit ce que fait cette femme et il se pose des questions sur Jésus. Premièrement, eh bien, ce qu'on constate, c'est que ce que lui ressent, ce n'est pas ce qu'elle ressent. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne sont pas au même endroit, il n'y a pas le même parcours. Ils sont là, tous les deux, dans la présence de Jésus, mais elle ressent des choses, et lui c'est son cerveau qui fonctionne, son système théologique, ses idées préconçues, et alors il est en train de poser des questions. Et il va rater quelque chose d'important. Il se pose des questions sur la nature de Jésus. Il dit, mais parce qu'il a cette idée fausse que Dieu ne veut pas le pécheur, et Dieu rejette le pécheur, et Dieu chasse le pécheur. Et donc, tout d'un coup, il développe des questions et il doute de la personne de Christ. Il dit, mais alors, il dit, mais il peut, il est, c'est pas une question de la divinité de Christ. Pour lui, c'est une question de, est-ce que Dieu, Jésus est vraiment même prophète? Il dit, s'il était prophète, il saurait de quel genre cette femme est. Et il réagirait autrement, mais ça se voit qu'il n'est rien du tout, parce qu'il ne connaît pas la dame, il ne sait rien sur elle, donc il a... Et vous voyez où ça le mène, parce qu'il a des idées préconçues, il a des idées sur Dieu, il a une théologie à lui, et cette théologie l'égare, il va rater, si ce n'était pas pour la grâce de Jésus, il pourrait rater complètement ce que Dieu a pour lui. Et vous savez, de nos jours, il y a pas mal de choses qui circulent. Les gens, ils ont des idées, ils arrivent avec leurs idées et ils essayent de faire marcher Dieu et rentrer Dieu là-dedans. Et comme ils ne rentrent pas, ben alors je le rejette. Le problème, c'est plutôt, c'est pas se poser des questions sur qui est Jésus, mais se poser des questions sur moi, qu'est-ce que je suis. Il y a une chose que Simon n'a pas compris. Et c'est une parole qu'on trouve dans Jean chapitre 15, en fait je crois que c'est Luc chapitre 15 où il dit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit il y a plus de joie dans le ciel pour une femme comme celle-là qui vient à moi que pour 99 Simon qui croient être au-dessus des autres. Et juste devant Dieu. Mais lui, il voit encore ce que cette femme était, tandis que Jésus voit ce que cette femme est devenue. Et comment elle est devenue ce qu'elle est maintenant, une adoratrice de Dieu, eh bien, nous le verrons par la suite. Mais c'est par la confession de ses péchés, lorsqu'elle a reconnu son état. Elle est devenue grâce au pardon de Dieu. Et maintenant, les passions charnelles qu'elle avait, eh bien, ont été remplacées par un amour pour Dieu. Les deux ne cohabitent pas. Donc, il y avait un temps où elle était conduite, entraînée par ses passions charnelles. Mais maintenant, elle est conduite par l'amour pour Dieu. Elle a réagi par rapport à cet amour. Vous savez, là on a Jésus à table, il y a la femme, et puis alors ça nous fait penser à cette parole d'Ésaïe 55, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et autant mes voix sont mes voix et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-delà de vos pensées. Ésaïe 55, 8 et 9. Donc, il dit, vous savez, Jésus est là, les deux étaient là. Simon, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait du mal, c'est lui qui a invité Jésus à venir. Donc, il était gentil, il était hospitalier, il a certainement servi à un bon repas. Et puis, il y a cette femme, mais deux longueurs d'onde différentes. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans un même lieu qu'on fait dans une église qu'on est en harmonie avec la pensée de Dieu. C'est un travail qui a été fait dans le cœur qui fait la différence. Jésus est le même, là, devant la femme ou devant Simon, c'est le même Jésus. Et les deux voient exactement la même chose, de vrai. Mais leurs conclusions sont diamétralement opposées. Ils vont dans deux directions différentes. Ils sont tous les deux devant Jésus, mais il y en a un qui regarde par là, puis l'autre qui regarde dans l'autre direction. Et la question que je pose, c'est qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous êtes celui qui le juge? Je dis, mais bon, moi, Jésus, oui, bon, il y a ça que j'aime de chez lui, il y a ça que j'aime pas, il y a pas ça, d'accord, ça, pas d'accord. Comme si c'est... Vous savez, quand on juge, on se place au-dessus. On ne peut juger que ceux qui sont inférieurs à nous, on ne peut pas juger ceux qui sont supérieurs. On se donne ce rang et puis on juge. Et là, Simon, il était en train de juger le Christ. Ben, il n'a rien reçu. Tandis que la femme samaritaine, bon, c'est une femme pécheresse, mais elle se laisse interroger par Jésus. Et là, elle a accès à tout ce que Jésus a à offrir. Pour elle, elle découvre Jésus tel qu'il veut être pour chacun d'entre nous. Une remarque que je dis en passant aussi, vous connaissez la Marie, mère de Marthe, mère, sœur de Marthe, qui, deux fois on la trouve, elle est reprise pour son comportement. Une fois, elle est assise auprès de Jésus et elle écoute. Et alors, Marthe arrive et dit, « Seigneur, regarde, tu as vu, elle ne fait rien, elle est paresseuse, tout ça, et moi, je travaille tout le travail et tout ça. » Et ce n'est pas Marie qui se défend, c'est Jésus qui la défend. Elle a dit, elle a choisi la bonne part. Et ce qu'elle obtient, c'est bien plus important que ce que toi, tu es en train de faire. Mais c'est Jésus qui prend sa défense. Plus tard, Marie va verser du parfum sur Jésus, et puis ce sera Judas qui dira, « Mais oh, quel gaspillage! On aurait pu vendre ça et donner l'argent aux pauvres !» En fait, c'est lui qui prenait la caisse, et il se servait dans la caisse. Il ne pensait pas aux pauvres. Vous voyez, notre monde, il n'a pas fait de progrès. Hein. Et alors, mais c'est Jésus qui la défend. C'est pas elle, mais c'est Jésus qui la défend. Vous savez, ici, Jésus fait la même chose pour cette femme. Lui, il est en train de penser des choses, il la juge de son regard. Mais Jésus va prendre la parole et finalement, il va défendre la femme. Il va la recommander même. Il la justifie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, Simon est en train de penser des choses mauvaises sur Jésus. Et Jésus le sait. Il sait ce que l'homme pense dans son cœur. Mais au lieu de se défendre lui-même ou d'essayer de se justifier, il justifie la femme. Alors que c'est de lui... Vous savez, la réaction naturelle chez nous les humains, c'est que quelqu'un commence à me critiquer, surtout des choses que je ne trouve pas vraies ou exagérées, eh bien, je me défends. Mais est-ce que je défends lorsqu'on dit des choses pas vraies, exagérées sur la personne à côté? Bon, après, on juge, bon, c'est mon ami ou c'est pas mon ami, je connais pas, je vais pas me mêler. Mais vous savez, on défend celui qu'on aime le plus. Et le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu t'aimes assez pour te défendre si on dit du mal sur toi, et bien si tu aimes ton prochain, tu vas aussi agir de la même manière. Et vous savez, notre amour est manquant. Hein, on a un amour un peu égoïste et pas un amour généreux. Celui de Christ, on pense du mal de lui, mais on pense du mal de la femme. Eh bien, il défend la femme. C'est quelque chose, hein? Mais c'est Jésus. C'est Jésus, il est comme ça. Alors tout cela se passe, jusque-là, on traite de la partie qu'on peut voir, ça se passe dans la tête de Simon, on voit ce que fait la femme, mais tout ce, là, il n'y a rien qui a été dit encore. Ensuite, Jésus prend la parole, c'est lui le premier qui prend la parole, et dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et lui, il dit « Parle. » Vas-y, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et Jésus, dans sa sagesse, au lieu de dire, tu sais, tu as des mauvaises pensées, hein, vraiment, non, il dit, écoute, je te raconte une histoire. Il dit, il y avait un homme, il y avait deux personnes. Il y avait une personne qui devait 500 deniers. Un denier, c'est à peu près le salaire d'un journalier, hein, d'une journée. Il y a une personne qui avait une dette de 500 deniers, puis il y a une autre personne qui avait 50 deniers, donc 10 fois moins. Et dit, comme l'un et l'autre ne pouvaient pas rembourser la dette, eh bien, l'homme a dit, écoutez, je vous pardonne tous les deux. Après, Jésus pose une question. Il pose la question et dit, Simon, d'après toi, c'est lequel des deux qui va aimer le plus? Simon dit, bon, je pense que c'est celui à qui on a le plus pardonné. Et Simon ne se rend pas compte qu'en fait Jésus est en train de parler de lui. Il dit la différence entre la femme pécheresse, c'est celle qui devait 500 deniers, et Simon, c'est celui qui devait 50 deniers. La femme pécheresse, elle avait confessé son péché, elle avait demandé pardon, ça a été remis. Tous ses péchés ont été remis, elle se rend compte de combien de péchés ont été remis parce qu'elle les a reconnus, et alors elle aime énormément. Tandis que l'autre, ben oui, bien sûr, le pharisien, de temps en temps, il demandait à Dieu, ben, pardonne-moi, bon, je suis quand même pas mal, mais pardonne-moi. Quelque chose, il avait demandé, il avait reçu le pardon sur quelques petites choses, et bien sûr que le résultat, c'est qu'il n'aimait pas autant. Je reviens à la question qu'on avait posée au début, comment augmenter notre amour? Eh bien, il nous dit justement, c'est là. C'est lorsque je me rends compte de mon péché, combien de fois j'ai désobéi à Dieu, et lorsque je demande pardon pour cela, et plus je prends conscience de combien il m'a pardonné et de combien de choses il m'a pardonné, eh bien, mon amour va augmenter. Et lorsque mais Dieu ne peut pas pardonner les fautes ou les péchés que... où je me justifie, ou que j'excuse, je dis, ouais, mais bon, je sais, moi, c'est pas normal, mais bon, lui, il m'a provoqué le premier. Ben, tu lui dis, bah, écoute, comme ça, une confession comme ça, moi, je peux rien pardonner, hein, tu restes avec ton problème. Tandis que je dis, Seigneur, je sais, mais je suis responsable, c'est moi qui aurais dû, je te demande pardon. Après, il dit, ah là, je peux te pardonner, parce que je reconnais la faute, je reconnais que ma faute. Je peux pas confesser le péché des autres, je peux confesser que mon péché. Et cette femme, elle ne s'est pas occupée de Simon, elle s'est occupée d'elle-même. Et Jésus est en train de dire, je vais t'expliquer pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle est là. C'est parce qu'elle a déjà eu beaucoup de péchés pardonnés et elle a beaucoup d'amour. Et elle l'exprime. Et remarquez dans la petite histoire de Jésus, c'est une question de dette remise. C'est-à-dire, elle a été pardonnée et c'est réglé. On ne revient plus dessus. Et donc, c'est là cette relation qu'on peut avoir. Et Simon est comparé à cette femme, il dit, tu sais, elle, parce que beaucoup de péchés ont été pardonnés, elle a confessé beaucoup de péchés, beaucoup de péchés ont été pardonnés, elle a confessé les vrais péchés, mais elle les a confessés. Eh bien, elle, quand elle est en ma présence, c'est de l'adoration. Et l'adoration et cet amour qu'elle a pour moi, eh bien, elle a envie de donner. Ça transparaît dans son comportement. Dit, tandis que toi, tu n'as pas été pardonné de beaucoup de choses parce que tu crois que tu n'as pas beaucoup péché, alors que là il péchait rien qu'en pensant que Jésus était peut-être même pas un prophète, mais bon, lui il était content de lui, hein, il n'avait pas. Eh bien, il dit parce que toi tu es comme ça, eh bien toi tu ressens pas grand chose pour moi. Quand je suis arrivé chez toi, tu m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu m'as reçu avec un baiser, tu m'as pas donné d'huile pour ma tête, tu n'as rien fait, toi, tu m'as reçu comme ça. Je suis rentré et puis voilà, je me débrouille comme je peux. Je n'ai rien de particulier. Et tu t'es content de toi parce que tu m'as reçu. Tu m'as servi un petit quelque chose à manger. Il dit, il y a une différence. Il dit, toi, ce que tu ressens, ce n'est pas du tout ce qu'elle ressent. Parce que toi, tu n'as pas d'amour. Parce que tu as confessé peu de péchés, et tu es content de toi en plus, et tu te crois meilleur. Mais elle a pardonné, elle a confessé ses péchés, elle a demandé pardon, elle l'a obtenu. Elle m'adore de tout ce qu'elle a. Verset 47, Remarquez ce que Jésus dit. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Si je m'arrêtais là, vous dites, ah, si on aime Dieu, il pardonne nos péchés. Non, c'est faux. Regardez, c'est ce qui suit. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. En fait, l'amour est le produit du pardon. C'est parce que ses péchés ont été pardonnés qu'elle a de l'amour. C'est parce qu'elle se rend compte que ses péchés ont été pardonnés qu'elle a de l'amour. Et c'est cette prise de conscience, non seulement du péché et de tout ce qu'il y a dans ma vie qui peut déplaire à Dieu et qui soit contraire à son enseignement et à ce qu'il désire de moi, que c'est lorsque je prends conscience de cela et que je le vis, c'est que là, mon amour augmente pour lui. Vous savez, il y a un autre passage dans la parole, Luc 18, où il nous dit il y avait deux hommes qui ont été dans le temple. C'est bien, pour prier. Les deux ont été pour prier. C'est un bon endroit. Mais il y en a un qui lève la tête et lui dit, Seigneur, je te remercie pour ceci, cela, et puis tu as vu ce que j'ai fait, et puis je paye la dîme, et puis je jeûne, et je dis, il a parlé de tout. Il dit, mais il y avait un autre qui baissait la tête et qui se tapait la poitrine et se frappait la poitrine et puis qui disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Et vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le premier, il n'a rien reçu. Le deuxième, il est rentré chez lui justifié. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas moyen de le contourner, mais si on veut avoir de l'amour pour Dieu, c'est pas en disant « Ah, Dieu, il est bon, Dieu est grand, Dieu est... » Vous savez, il y a des millions de gens dans ce monde qui disent « Dieu est grand. » Mais est-ce que pour ça qu'ils ont de l'amour pour Dieu? C'est pas très évident. Hein? Tandis que, quand je dis « Mon péché est grand », ah, là, après, et Dieu m'a pardonné, là, l'amour se développe. Et c'est dans ce contexte-là que l'amour se développe. L'amour pour Dieu. Et quand j'ai de l'amour réel, l'amour de Dieu, eh bien, j'aurai de l'amour pour mon prochain. Jésus ne dit pas à la femme que c'est parce qu'elle a beaucoup aimé que ses péchés sont pardonnés, mais plutôt c'est parce qu'elle a déjà reçu le pardon de tous ses péchés qu'elle aime beaucoup. Et il dit celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Donc c'est le résultat du pardon, que l'amour vient. Et puis on ne peut pas, on peut essayer d'imiter, on peut essayer de faire semblant, mais celui qui vit encore dans son péché, qui le justifie, qui le cache, qui le couvre, eh ben son amour pour Dieu ne peut pas développer, même s'il en parle, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, ce n'est pas convaincant. Jésus établit ce rapport entre les péchés confessés pour être pardonnés et le degré d'amour qui transparaît dans l'adoration. Et Dieu nous pardonne si nous confessons le péché. Dit 1 Jean 1:9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, on peut compter dessus, et il est juste pour nous pardonner de toute iniquité. Mais il faut le confesser, il faut le reconnaître. Il ne pardonne que ce qu'on reconnaît et ce qu'on admet, sans s'excuser, sans se justifier. Et ensuite, tout ça, il l'a dit à Simon. Ensuite, il dit deux petites paroles pour la femme. Au verset 48, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Comprenons, il dit cette parole dans le contexte du passage. Hein. Donc, on a déjà compris qu'elle a déjà confessé ses péchés et ses péchés sont déjà pardonnés. C'est pour ça qu'elle aime. Alors pourquoi dit-il ces choses? Il dit, c'est ceux qui sont à table, eux, leur seule réaction quand ils entendent ça, c'est dire, mais il se prend pour qui de pardonner le péché? Il dit à la femme, il dit, je vois que tes péchés sont pardonnés. La manière dont tu aimes, la manière dont tu exprimes cet amour, je vois que tes péchés sont pardonnés. Je vois l'œuvre du pardon dans ta vie. C'est ça qu'il dit. Il dit, ah, tes péchés sont pardonnés, hein. Parce que je vois comment tu te comportes. Je vois, et elle n'a pas dit un mot. Mais Jésus dit, ça se voit que tes péchés sont pardonnés. Et il dit, tu sais, ma sœur, tu n'as pas besoin de rester là et de pleurer continuellement. Tes péchés sont pardonnés. Dans un sens, il dit, écoute, tu sais, d'accord, c'est confessé, c'est pardonné, tu aimes. Maintenant, c'est pardonné, lève-toi. Tu peux lever la tête. C'est pardonné, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de continuer de gémir. Et il y a certains mouvements évangéliques là où ils sont tout le temps en train de se gémir dans leur péché. Oh, je suis un grand pécheur, je suis un terrible pécheur. Et leur prière, c'est que je suis un terrible pécheur. Et puis ils continuent comme ça pendant des années. Mais si tu restes là, tu vas nulle part. Tu ne peux pas t'épanouir. C'est. Jésus dit, écoute, à partir de cette expression d'amour, je vois que tes péchés sont pardonnés, sinon tu n'aurais pas ces sentiments. Mais maintenant, tes péchés sont pardonnés. Alors, tu peux arrêter de pleurer et commencer à vivre, à t'épanouir à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, la deuxième parole de Jésus à cette femme, c'est « ta foi t'a sauvée ». Ta foi t'a sauvé. Tu as été sauvé, c'est à cause de ta foi. Tu as eu confiance en Dieu, et tu es venu, tu as confessé ton péché, tu as obtenu le pardon. Maintenant, parce que tu as été pardonné, tu aimes en retour. Eh bien maintenant, va en paix. Va et jouis de ce pardon et jouis de cette relation nouvelle de paix avec Dieu. Il n'y a plus de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Vous savez, celui qui se sent coupable, il suffit que papa se gratte la tête et puis l'autre, mais c'est parce qu'il se sent coupable. Il sait que ça doit venir. Mais celui qui sait qu'il est pardonné, ben, le papa il fait un geste, ben, lui, il n'est pas gêné. Vous savez, c'est quand je me sais pardonner, eh bien, je peux vivre. Et je marche avec confiance. Et je rentre dans la présence de Dieu. Avec pas la sûreté de l'orgueil, mais avec la sûreté de la promesse de Dieu, que les péchés sont vraiment pardonnés. Il dit, ta foi t'a sauvé, hein, c'est pas ton amour qui a obtenu le pardon des péchés, c'est parce que tu as cru, tu as demandé le pardon, il a pardonné, et maintenant, va en paix. Et elle peut vivre en paix. Et l'apôtre Paul parlera de cela parce que lui, il a vécu aussi cette expérience. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Il dit, et la paix de Dieu qui dépasse la compréhension de l'être humain, mais elle est là. Et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle ne permettra pas que vos pensées partent et disent, oui, mais et si jamais à la fin, hein, oui, aujourd'hui je me sens pardonné, mais demain, il dit, peu importe comment tu te sens, il a dit que tu es pardonné. Et tu n'as pas à douter. Je termine avec ce verset de Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est comme ça qu'on obtient la miséricorde de Dieu, c'est comme ça qu'on peut s'approcher, c'est lorsque je reconnais. Et lorsque vous lisez les psaumes de David, quand il fait référence au temps après son péché avec Bathsheba et avant de le confesser, il a dit c'était terrible. C'était, il gémissait, il avait les douleurs jusqu'à dans ses os. Et il ne dormait pas, et c'était un temps terrible. Jusqu'au jour où Dieu, dans sa grâce, lui a envoyé quelqu'un, lui a dit, écoute, tu as péché. Il dit, oh, tu me soulages, parce que maintenant je vais confesser. Et puis quand il a confessé, il a retrouvé la joie. Il a dit, maintenant, vous lisez le psaume 51, il dit, et maintenant je peux chanter à la louange de Dieu. Elle ne vient que lorsque notre péché... C'est pas important. Qui le sait? Ce qui importe, c'est d'abord... Comme le dit le fils prodigue, il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai d'abord péché contre le ciel et ensuite j'ai péché contre toi et je te demande de me pardonner. » L'amour de celui qui confesse son péché et qui obtient le pardon de ses péchés, eh bien son amour augmentera et transformera sa relation avec Dieu. Ce sera tout autre chose. Et sa vie chrétienne, au lieu d'être un fardeau, eh bien, ce sera une paix profonde, une joie, un soulagement. Et nous voulons vraiment baigner dans cette pensée. Je vais prier, et ensuite on aura un moment de silence, et que chacun peut, pour donner le temps à chacun, de vraiment... méditer et voir en quoi ces paroles s'appliquent à sa vie parce que nous sommes là devant le Seigneur. Père Céleste, tu as conservé ce récit, cet événement qui est passé dans la maison de Simon. C'était pour nous parler de deux catégories de personnes qui viennent dans ta présence. Il y a ceux qui sont contents d'eux, parce qu'ils croient que personne ne sait pas grand-chose sur eux. Et puis après, il y a ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui les confessent à toi et qui règlent cela avec toi. Et puis là, ils ont de l'amour, tandis que les autres n'ont pas. Les uns, c'est... ils sont disciplinés dans leur vie religieuse, et puis les autres, eh bien, ils ont un grand amour et un grand zèle dans leur vie avec toi. Père, tu connais nos cœurs, et c'est toi qui dois nous évaluer, c'est pas nous, c'est pas, nous n'allons pas regarder au prochain, c'est à chacun de nous de regarder à nous-mêmes, à nos cœurs, et de voir quelle est notre position devant toi. Et Père, je te prie que ta parole et ton esprit puissent agir dans les cœurs de chacun d'entre nous.